ou à Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 31 mai 2022. En direct de Washington, Idrissa Seloudia. Bonjour à toutes et à tous pour commencer les titres. Au Mali, l'ONU impute à l'armée une hausse exponentielle des violations des droits, allégations contestées par Bamako. Kinshasa maintient ses accusations au sujet de la rébellion du M23, mais reste ouvert au dialogue avec Kigali. En Ukraine, les forces russes au cœur de Severodonetsk. L'Union européenne s'accorde sur un embargo pétrolier. L'Iran se rapproche de la quantité d'uranium enrichi nécessaire à la confection d'une bombe atomique, avertit l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le président américain Joe Biden va continuer à pousser pour une régulation plus stricte des armes après la tuerie d'Uvalde la semaine dernière au Texas. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Le nombre de morts civiles et de violations des droits imputables à l'armée malienne soutenue par des militaires étrangers a connu une hausse exponentielle au premier trimestre de 2022. C'est ce qu'a indiqué lundi la MINUSMA, la mission de l'ONU dans le pays. Les précisions de John Linden.
Si les groupes armés affiliés à Al-Qaïda ou à l'organisation État islamique sont restés les principaux auteurs des violences contre les civils, la MINUSMA a dénombré 320 violations imputables aux forces de défense et de sécurité appuyées par des éléments militaires étrangers au cours des trois premiers mois de l'année, dont la mort de 248 civils, indique la MINUSMA dans une note trimestrielle sans préciser l'origine de ces éléments étrangers. La junte au pouvoir à Bamako depuis août 2020 s'est détournée ces derniers mois de la France et de ses partenaires européens et s'est tournée vers la Russie. Les Européens dénoncent le recours fait selon eux par les colonels au service de la société de sécurité privée russe Wagner. La junte dément et parle de coopération renforcée d'État à État avec la Russie. La MINUSMA montre par ailleurs du doigt un retraitissement continu au Mali de l'espace civique et du débat démocratique, de même que la restriction dans l'exercice des libertés publiques.
La MINUSMA a soumis sa note aux autorités de Bamako avant sa publication. Dans un mémorandum de réponse consulté par l'AFP, les affaires étrangères maliennes fustigent, je cite, « des allégations très souvent tendancieuses, non recoupées et ne s'appuyant sur aucune preuve tangible », fin de citation. Elle vise à discréditer les forces maliennes, assure-t-elle. Les affaires étrangères répètent à plusieurs reprises qu'un strict respect des droits humains est pris en compte dans la formation des soldats et la préparation des opérations. La junte revendique régulièrement de pousser les djihadistes à la débandade. Kinshasa a réaffirmé lundi que Kigali soutenait la rébellion du M23 dans l'est de la RDC, mais a refusé de fermer toutes les portes de la discussion pendant que des manifestants réclamaient dans la capitale congolaise l'expulsion de l'ambassadeur rwandais. Lors d'une conférence de presse consacrée au récent combat entre l'armée et les rebelles du M23 au nord de Goma, chef-lieu du Nord Kivu, et aux tensions diplomatiques qui en ont résulté, le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya ainsi que ceux de l'armée et de la police ont réitéré avoir des preuves du soutien rwandais à cette rébellion. Kinshasa a décidé de suspendre les vols de la compagnie aérienne rwandaise Rwandair sur son territoire et l'ambassadeur rwandais à Kinshasa, Vincent Karega, sera notifié ce mardi de notre désapprobation telle que cela a été prévu, a dit M. Muyaya. Le risque de famine contre lequel l'ONU met en garde depuis plusieurs mois en Éthiopie, au Kenya et en Somalie s'aggrave encore. avec la perspective désormais tangible d'une nouvelle mauvaise session d'une mauvaise saison des pluies, la cinquième d'affilée, ont alerté lundi plusieurs agences onusiennes.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Ukraine, les forces russes progressent dans l'est du pays avec des combats lundi au cœur de la ville clé de Severodonetsk, au moment où les dirigeants de l'Union européenne ont réussi à tomber d'accord pour arrêter l'essentiel de leurs importations de pétrole russe. Les 27 pays membres de l'UE se sont mis d'accord sur un embargo progressif censé assécher le financement de la machine de guerre de Moscou. Il concernera dans un premier temps le pétrole transporté par bateau, soit les deux tiers des achats européens d'or noir russe. Une exemption temporaire a été prévue pour le pétrole acheminé par oléoduc afin de lever le veto de Budapest. A signaler qu'un journaliste français travaillant pour la chaîne BFM TV a été tué lundi en Ukraine et son collègue blessé alors qu'ils accompagnaient des civils à bord d'un véhicule d'un bus humanitaire, portant à 8 le nombre de reporters tués depuis le début de l'invasion russe. L'Iran a continué ces derniers mois à accumuler de l'uranium enrichi et se rapproche de la quantité nécessaire à la confection d'une bombe atomique. C'est ce que révèle l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le point avec Abdourahman Dia.
Selon les estimations de l'AIEA rendues publiques hier lundi, les stocks dépassent désormais plus de 18 fois la limite autorisée par l'accord international de 2015. L'Iran a également élevé son stock de matières enrichies à 20%. Le niveau fixé par l'accord permet en théorie de produire des isotopes médicaux utilisés notamment dans le diagnostic de certains cancers. Téhéran dit que son programme nucléaire a un objectif civil. La République islamique dispose par ailleurs de 43,1 kg d'uranium enrichi à 60% et s'approche donc du seuil des 90% nécessaires à l'élaboration d'une arme atomique. À une telle quantité, la possibilité de fabriquer un engin explosif ne peut être exclue, a commenté une source diplomatique. Le Conseil des gouverneurs de l'AIEA se penchera sur cette question la semaine prochaine, alors que les négociations pour sauver l'accord sur le nucléaire iranien sont au point mort depuis le retrait unilatéral en 2018 des États-Unis sous la présidence de Donald Trump. L'administration Biden et les autres puissances tentent de le relancer, mais sans succès pour l'instant.
Ici aux États-Unis, c'est ce mardi que débutent les funérailles de certaines des 21 victimes de la fusillade de la semaine dernière dans une école primaire d'Uvalde, au Texas. Le président Biden promet d'agir sur la question des armes à feu, misant sur ceux qu'il appelle les républicains rationnels. Précision de Lionel Gahima.
J'ai toujours eu la volonté d'agir, a déclaré le chef de l'exécutif américain à des journalistes lundi. Joe Biden a promis de poursuivre ses efforts en vue d'une régulation plus stricte des armes à feu, ajoutant « Cela n'a pas de sens de pouvoir acheter quelque chose qui peut tirer jusqu'à 300 balles ». Le débat tourne autour du deuxième amendement de la Constitution américaine qui autorise le port d'armes. Certains Américains estiment que cette mesure ne doit souffrir d'aucune restriction. D'autres pensent qu'il faut en exclure certaines catégories d'armes, comme les fusils d'assaut, et aussi procéder à une vérification plus stricte des antécédents judiciaires et psychologiques des gens désireux d'acquérir une arme à feu. Les législateurs démocrates et républicains sont en négociation dans l'espoir de trouver un compromis, une tâche ardue, étant donné le grand poids de la question du port d'armes dans la politique américaine.
La Chine a procédé lundi à sa deuxième plus grande incursion de l'année dans la zone aérienne de défense de Taïwan, avec l'entrée, selon Taipei, de 30 avions dans cette zone, dont 20 chasseurs. Taïwan dit avoir fait décoller ses propres avions et déployé des systèmes de missiles de défense aérienne pour surveiller l'activité chinoise. L'île vit sous la menace constante d'une invasion de la Chine qui considère ce territoire comme le sien et a promis de le récupérer par la force si nécessaire. La semaine dernière, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a accusé Pékin de faire monter les tensions, mentionnant explicitement les incursions aériennes, exemple selon lui d'une rhétorique et d'une activité de plus en plus provocante. La Minute Éco, Nathalie Barge.
En République du Congo, plus de 1500 employés de la Direction générale du budget au ministère des Finances ont entamé hier une deuxième semaine de grève. Ils réclament le paiement des arriérés de primes depuis 2017 et la cessation d'activité de ceux qui ont fait valoir leur droit à la retraite, mais occupent toujours des postes à responsabilité. Selon la Banque mondiale, les recettes de la tarification du carbone ont augmenté de près de 60% en 2021 par rapport à l'année précédente, atteignant 84 milliards de dollars. Ces revenus permettront de financer des réformes pour favoriser la transition vers un avenir décarboné, est-il souligné dans un rapport présenté à l'occasion de la conférence annuelle Innovate for Climate. En Tanzanie, le chantier du premier port de pêche sera lancé au mois de juin dans le district de Kilwa, dans la région de Lindi, a annoncé dimanche le ministre de l'Élevage et de la Pêche, Mashimba Mashori Ndaki. Le coût de la phase initiale des travaux est de 43 millions de dollars.
Merci Nathalie. Les sports à présent avec Yakuba Ouedraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le Wydad de Casablanca, champion d'Afrique.
Oui, en finale, hier, dans leur ville, les Marocains se sont imposés 2-0 devant les doubles tenants du titre, les Égyptiens d'Al Ahly. Le Wydad de Casablanca remporte ainsi son troisième trophée dans cette compétition après les éditions de 1992 et 2017. Les Égyptiens ont déjà remporté ce trophée à 10 reprises, dont les deux dernières éditions, et visaient donc un historique triplé. C'est raté pour cette année.
Le sélectionneur de l'Algérie s'explique sur la non-convocation de Riyad Mahrez.
C'est une non-affaire, déclare Jamal Belmadi avant le match contre l'Ouganda samedi à Alger, qui sera suivi par un déplacement le 8 juin en Tanzanie. La santé des joueurs passe avant tout. Nous avons reçu un rapport médical de son club Manchester City, soutient Belmadi à propos de l'absence en sélection de la star des Fenech. Il a raté des matchs importants avec son club et n'a pas pu terminer son dernier match en raison d'une blessure, a détaillé l'entraîneur qui s'est dit étonné des doutes quant à la bonne foi de l'attaquant de Manchester City. L'absence de Mahrez a fait naître une polémique dans les médias algériens et sur les réseaux sociaux qui a enflé lorsque le joueur a publié des photos de ses récentes vacances à Marrakech au Maroc.
L'UEFA ouvre une enquête sur le fiasco sécuritaire autour de la finale de la Ligue des Champions.
L'instance européenne promet d'examiner les prises de décision, les responsabilités et les comportements de toutes les parties impliquées dans la finale. L'enquête a été confiée à une personnalité indépendante, l'ancien ministre portugais de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, Thiago Brandão Rodrigues. Samedi soir, au Stade de France, l'impossibilité d'acheminer dans les temps les spectateurs munis de billets a non seulement retardé de 36 minutes le coup d'envoi du match, mais les scènes de chaos aux abords du stade ont en outre fait le tour du monde face aux critiques qui écornent l'image de la France comme pays hôte à 2 ans des JO 2024 de Paris. Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a évoqué lundi une fraude massive, industrielle et organisée de faux billets venant de l'autre côté de la Manche.
Karim Benzema mérite le ballon d'or selon Lionel Messi.
D'après l'Argentin, il n'y a pas de doute sur le fait que l'attaquant français du Real Madrid mérite le ballon d'or cette année. Il est très clair que Benzema a fait une année spectaculaire et qu'il a terminé de manière grandiose en remportant la Ligue des Champions, estime Messi, 7 fois ballon d'or sous les couleurs du FC Barcelone. Lionel Messi a fait cette déclaration à l'occasion de la finalissima qui va opposer demain mercredi à Wembley l'Argentine victorieuse de la dernière Copa América à l'Italie, championne d'Europe l'été dernier. Le Ballon d'Or sera remis le 17 octobre prochain à la suite d'un vote des journalistes dans les 100 premiers pays du classement FIFA. Seules les performances de la saison 2021-2022 seront prises en compte.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seloudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Du samedi 28 mai au lundi 30 mai, une cinquantaine de civils ont été tués lors d'attaques répétées attribuées aux rebelles ougandais des forces démocratiques alliées, les ADF, dans le territoire de Beni, dans l'est de la RDC. Un centre de santé, des maisons et des véhicules ont également été brûlés. L'armée congolaise a confirmé les attaques, mais reste prudente quant au bilan. Pour plus de détails, suivez ce reportage de Zanem Neti Zaidi.
Depuis dimanche, des corps enveloppés dans des sacs en plastique sont amenés sur des motos par des jeunes gens à la morgue d'Oicha, où les gens étaient rassemblés pour vérifier les corps de leurs proches. Colère et désespoir ont gagné les esprits des populations, exaspérées par les tueries. Les assaillants ont exécuté les civils à l'arme blanche et à feu, révèle Sylvie Malumalu, qui a perdu quelques membres de sa famille dans la tuerie.
Les rebelles venaient de la province de l'Ituri. Ils avaient manifestement pour seule mission de venir tuer au nord Kivu. Ils sont arrivés à Kasoko pour atteindre la position militaire de Beu et entrer dans le centre de la ville.
Les victimes sont des civils de tous sexes et de tous âges, certains vivant dans la commune d'Oicha et d'autres dans la ville de Beni. Parmi eux se trouvent trois personnes de la même famille, Joël Wasewanava et leurs proches.
Celui qui est mort est mon petit frère. Il était avec sa femme dans le champ où ils ont tous été tués. Le corps de leur enfant n'a pas encore été retrouvé, mais le corps de la mère est déjà à la morgue et nous sommes allés chercher le corps de mon petit frère.
Paluku Muhasu a échappé de justesse à l'attaque des assaillants, mais les maisons de ses amis et voisins ont été pillées et brûlées par les assaillants qui se sont ensuite retirés de la zone après les affrontements avec les forces armées de la RDC.
À 5 heures, nous avons entendu les coups de feu. J'allais passer la nuit dans le village de Beu. Si je le faisais, je mourrais. Car là où nous pouvions passer la nuit, la maison a été brûlée. Quand nous sommes revenus toujours sous le crépitement des balles, nous avons appris que le village de Beu était déjà brûlé. Heureusement, ils n'ont pas brûlé la maison où se trouvait ma moto. Nous ne savons pas jusqu'où ils sont allés.
La terreur et l'indignation se ressentent au sein de la société civile suite aux attaques répétées dans les territoires de Beni. Cette dernière demande aux autorités de tout faire pour amener la paix dans la région, sinon la population envisage de se prendre en charge en allant chercher l'ennemi dans la brousse, car depuis, les civils sont la cible des assaillants. Fidèle Mutupeke est membre de la société civile d'Oicha.
C'est dommage de voir que nous continuons à mourir, nous souffrons beaucoup. Que le gouvernement nous dise ce qu'il faut faire pour arrêter ces tueries, parce que nous voyons que nous sommes leur cible. Ils nous cherchent parce que si c'était une guerre normale, ils chercheraient toujours les soldats dans leur camp, mais au lieu de cela, ils tuent la population inoffensive.
L'armée congolaise a confirmé les attaques, mais reste réservée quant au bilan. Les localités théâtres de ces attaques accueillaient déjà des habitants et enfouis des précédents massacres dans d'autres villages proches. Zanem Neti Zaidi pour VOA Afrique.
Au Mali, les partisans de l'imam Mahmoud Diko se sont rassemblés samedi à Bamako, où ils ont estimé que leur pays était dans une impasse. Comme leur leader, ils accusent les dirigeants de la transition d'avoir mis le Mali dans une situation difficile. Youssouf Daba Diawara est le coordonnateur général de la CEMAS, la coordination des mouvements associations de sympathisants de l'imam Mahmoud Diko. Au micro de Bagassi Koura, il explique les raisons de la mobilisation de samedi.
L'objectif de la rencontre de samedi, c'était de faire appel d'abord à toutes les personnes qui se reconnaissent à l'imam Mahmoud Doukou, les regroupements, les associations et les particuliers. Donc c'était pour apporter notre soutien aussi, dire aux Maliens que vraiment le message que l'imam a voulu faire passer, et c'était un message à l'endroit de la communauté internationale, aux gouvernants, aux politiques et à la société civile, et les interpeller pour leur demander de vraiment trouver une solution pour le Mali et de sortir de cette crise.
Alors, beaucoup de gens considèrent Mahmoud Diko comme un leader moral et étaient donc surpris de le voir qualifier la junte de gouvernement arrogant.
Effectivement, on a vu sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de commentaires qui se font par rapport à ça. Mais nous disons simplement que l'imam est dans son rôle. Il est dans son rôle, comme vous venez de le dire. Il était le père spirituel du mouvement M5, on peut le dire comme ça, l'autorité morale du M5. Maintenant, si c'est grâce à lui qu'on est arrivé jusqu'à ce niveau, et son combat c'était pour le peuple malien. Donc aujourd'hui, on voit que malgré tout ce qui se dit aujourd'hui, les changements, on n'arrive pas à les constater vraiment de façon notoire, à part quelques-uns, à part par exemple par rapport à l'armée, oui, on sait qu'il y a des évolutions, mais au-delà de ça, vraiment, nous n'avons rien vu de concret. Donc c'est tout à fait normal que l'imam sorte à un moment pour dire ce qu'il pense de la situation et interpeller nos autorités et la communauté internationale de trouver une solution au problème pour que le peuple malien qui est en train de souffrir depuis un certain temps puisse avoir quelque chose de meilleur maintenant.
Alors immédiatement après sa sortie, on a vu aussi que le shérif de Niono a fait une déclaration pour soutenir la junte. Est-ce que vous ne craignez pas une fracture entre ces deux leaders religieux?
Non, je pense pas. Je pense que le shérif de l'Euro, en tant que leader aussi, a son point de vue par rapport à tout ça. Et son soutien à la transition, c'est tout à fait normal. Et je le rappelle aux gens aussi que la sémence de l'imam Mahmoud Diko, y compris l'imam Mahmoud Diko, n'a jamais dit qu'il ne soutenait pas la transition. Nous soutenons toujours la transition, mais dans la vérité, à travers la vision de l'imam, et ce que nous pensons être bon pour le pays, et surtout pour le peuple malien.
Au sujet de la transition, qu'est-ce que la sémence souhaite exactement?
Ce que la CEMAS souhaite exactement, c'est qu'aujourd'hui, là où nous sommes, il est vraiment temps que la transition s'assume et qu'on sort des quiproquos et qu'on arrête d'indexer les autres en disant que c'est eux le problème. Nous pensons aujourd'hui que le problème, c'est nous-mêmes les Maliens. Tous les problèmes qui sont là aujourd'hui, c'est nous les Maliens qui doivent le régler. Et personne ne pourra le faire pour nous. Donc nous pensons aujourd'hui que la transition doit rassembler tout le monde, rassembler les forces vives, échanger avec eux. Savoir qu'est-ce que les gens veulent réellement, les projets que les gens ont, les propositions que les gens ont, et prendre ça pour en tenir compte et nous faire sortir de la crise.
C'était Youssouf Daba Diawara, le coordonnateur général de la CEMAS, la coordination des mouvements associations de sympathisants de l'imam Mahmoud Diko. Il était joint à Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24 heures sur 24.
Au Niger, une recrudescence des attaques djihadistes présumées dans l'ouest du pays a contraint depuis janvier davantage de personnes à fuir leur domicile, selon l'agence humanitaire de l'ONU, OCHA. C'est un reportage de Boureima Hama. Le récit est de Rosine Mounezero.
Les déplacements forcés se sont intensifiés au cours des 5 premiers mois de 2022 en raison des groupes armés qui attaquent les civils et les forces de sécurité. L'agence onusienne OCHA a recensé 136 incidents de sécurité de janvier à avril de cette année contre 93 au cours de la même période l'an dernier. Hawa Munkela est l'une des rescapées de ces attaques.
C'est à la tombée de la nuit que les djihadistes armés qui écument la région sont venus. Ils nous ont salués, ils ont fait rassembler tous les hommes sous prétexte qu'ils devaient assister à leur prêche. Mais leur intention était tout autre. Au contraire, ils ont trié 5 hommes qui sont allés exécuter loin du village. Puis ils sont revenus en brandissant leurs armes pour nous sommer de quitter les lieux sous peine de nous tuer tous. Alors nous avons fui en laissant tout derrière nous.
Du 1er au 19 mai, 43 civils ont été tués et 22 autres enlevés dans les départements de la région de Tillaberi, à la frontière du Burkina Faso et du Mali. Hamadou Younsa a pu échapper à ces attaques.
« Nous étions en train de nous reposer quand les enfants nous ont alertés de l'arrivée d'un cortège de motos dans le village. Alors tous les habitants se sont barricadés dans leurs maisons. Les assaillants ont fouillé maison par maison et ont fait sortir une centaine de personnes, parmi lesquelles ils ont exécuté sommairement 5 hommes, dont le chef du village.
Depuis le début du mois d'avril de cette année, plus de 34 700 personnes vivant à Tillabéri, soit plus de 5 000 ménages, ont été contraintes de se déplacer.
Vous voyez cette femme, ils ont tué son mari, ils ont tué le frère de son mari. Il vivait dans la résidence du chef du village qui a aussi été tué. Après, les tueurs nous ont ordonné de partir, d'aller vivre ailleurs. Alors nous avons fui. Certains d'entre nous ont juste pris une bouilloire pour faire des réserves d'eau. Mais d'autres sont partis sans rien emporter.
Le Niger abrite des dizaines de milliers de personnes déplacées à l'intérieur du pays, ainsi que des réfugiés du Nigeria, du Mali et du Burkina Faso. Le pays souffre également d'une grave crise alimentaire causée par la sécheresse et les violences djihadistes qui ont empêché les agriculteurs de travailler leurs terres. Selon le ministre de la Défense du Niger, Alkassoumou Indatou, les forces de défense et de sécurité ont lancé une opération de nettoyage le 16 mai pour neutraliser ces groupes armés.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
L'Union africaine a tenu ce week-end un sommet extraordinaire à Malabo. Au menu, il y avait la question du terrorisme qui gagne du terrain sur le continent, mais les chefs d'État s'étaient aussi penchés sur les changements inconstitutionnels de gouvernement au moment où les coups d'État ont été notés ces dernières années sur le continent. Le président de la Commission, Moussa Faki, a dénoncé les modifications de constitution aux fins de confiscation du pouvoir. Pour en parler, Abdourahmane Dia a joint à Dakar Ibrahima Kan, chargé de plaidoyer auprès de l'Union africaine à l'OSIWA.
Que surtout pour ce qui concerne le changement anticonstitutionnel de gouvernement, que l'Union africaine aurait pris des mesures énergiques pour faire face à un phénomène qui est de retour sur notre continent, à savoir les coups d'État, à savoir les manipulations des constitutions par les dirigeants qui veulent rester au pouvoir. Mais quand on jette un coup d'œil sur les décisions qui ont été prises, on a des raisons d'être un peu déçus. Déçus parce que les États africains semblent penser que ces problèmes, c'est d'abord des questions de procédure.
Donc pour vous, c'est plus qu'une affaire de texte et de mécanisme, puisque ces mécanismes dont on fait allusion existent déjà depuis 10 ans au moins.
Pour moi, les États africains n'ont pas, pendant ces 3 jours de réunion, vraiment pris à bras le corps les problèmes et essayé de leur trouver une solution. Et pourtant, il y avait un document de travail qui avait été élaboré par un certain nombre d'organisations qui s'étaient réunies à Accra au mois de mars et qui avaient posé un certain nombre de questions, comme par exemple la nécessaire révision du concept de changement anticonstitutionnel de gouvernement. Qu'est-ce que l'Union peut faire pour revoir sa copie à ce niveau-là? C'était une des propositions phares de cette réunion, mais on ne la retrouve pas ici. Une autre proposition phare de cette réunion, c'était d'aller dans la même direction que la CEDEAO en ce qui concerne, par exemple, la question des troisièmes mandats. On a même tout fait pour éviter le concept de troisième mandat dans le document.
Oui, mais Ibrahima, quand Moussa Faki, le président de la Commission, dénonce, je cite, les modifications de constitution aux fins de confiscation du pouvoir qui, dit-il, peuvent aboutir à des révoltes ou des coups d'État, est-ce que ce n'est pas une manière de répondre aux critiques face à l'inaction de l'Union africaine sur ces changements de constitution et au troisième mandat?
Le président de la Commission a beau dénoncer ce genre de situation, ce qui est important, c'est que dans la décision finale du sommet, on devrait trouver, en tout cas, une disposition qui prend en charge cette préoccupation. Mais on ne l'a pas ici. On ne l'a absolument pas.
C'était Ibrahim Khan, joint à Dakar. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloudia, à la mise en onde de Michel Joseph et à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.